Bonjour et bienvenue dans notre émission Écrire l'Histoire. Aujourd'hui, je reçois Jean-Numa Ducange, qui est professeur d'histoire à l'Université de Rouen. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Fayard cet ouvrage « Quand la gauche pensait la nation », un ouvrage qui ausculte le dilemme entre l'engagement internationaliste des premiers socialistes et la prise en compte du fait national qui persistait et qui persiste encore aujourd'hui. Alors, dans cette émission, Jean-Numa Ducange, on s'intéresse à l'histoire, mais aussi au travail de l'historien. Donc, question classique mais importante, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a motivé le choix d'un tel sujet qui est tout sauf anodin, parce que vous le rappelez dans l'introduction, les polémiques sur la nation, son dépassement, son obsession, elles existaient il y a un siècle, elles sont encore bien prégnantes aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Lorsque j'ai commencé mes études d'histoire dans les années 1990, pour beaucoup, il était clair que la nation, évidemment, existait encore, mais que la construction européenne, la mondialisation, tout ce genre de phénomène, allait faire en sorte que, bon, les questions nationales allaient être minimisées. Bien sûr, dans les années 90, il y avait pourtant des phénomènes qui nous rappelaient durement ces réalités. Je pense à la guerre en Yougoslavie. Ouais. Mais tout de même, il y avait un discours en Europe de l'Ouest, je puis en Europe occidentale, quelque chose, une sorte d'enthousiasme après la chute du mur de Berlin autour de la construction européenne, quels que soient les courants politiques. Je pense à tous les slogans sur une autre Europe est possible qui faisaient relativement consensus. Et ces dernières années, cette dernière décennie, pourrait-on dire, il y a eu toute une série de controverses, de polémiques autour du retour de la nation et de l'usage que peut faire la gauche de la nation. Partant de là, je me suis dit qu'il serait intéressant de travailler historiquement de façon plus approfondie sur le sujet. J'avais pas envie d'apporter une contribution entre guillemets polémique à la question. Je pense qu'il y en a suffisamment dans le débat public avec des positions claires de part et d'autre. Donc moi, j'ai voulu tout simplement retourner à une situation historique. Fin du 19e siècle, quand les partis ouvriers sociaux-démocrates, pour la première fois de leur histoire, sont vraiment implantés dans quelques pays européens. Et comme ils sont vraiment implantés, vraiment puissants, ils se posent toutes les grandes questions qui peuvent arriver à ce moment-là. L'État, la réforme, la révolution, mais aussi la réalité nationale, la réalité des nationalités. Et étant germanophone, pouvant comprendre bien l'allemand, comme c'est à cette époque-là, les plus grands partis, les plus puissants rapportés à leur société donnée, c'était en Allemagne et en Autriche notamment, eh bien je me suis plongé là-dedans pour voir finalement comment les théoriciens socialistes, comment aussi la masse militante, qui est plus dure à appréhender parce que les archives sont plus difficiles à trouver, comment tous ces gens-là ont perçu la question nationale et qu'est-ce qu'ils ont essayé d'apporter comme réponse à cette question.
Alors, vous expliquez bien à quel point, effectivement, c'est des partis puissants, quasiment modèles aussi pour les autres partis qui se forment à cette époque. Donc, il y a la question de la puissance politique et militante. Il y a la question de l'intérêt, de l'originalité aussi des positions qu'ils prennent sur la nation. Vous montrez à quel point on a des positions qui sont originales dans cet espace-là. Donc, germanophone, effectivement, dans ce qu'on appelle la Middle Europa de la fin du 19e, début du 20e siècle. Avant de poursuivre, est-ce qu'on peut réexpliquer en fait, quelle est la réalité complexe de cet espace, qui est une réalité qui est à la fois impériale et multinationale?
Oui, absolument. Alors, la carte de l'Europe.
Alors que la France, il faut le rappeler, la France est déjà à l'époque un État unitaire, un peu ou prou comme on le connaît aujourd'hui.
Quoi. Tout
bon,
à fait.
Il y a tout l'espace colonial.
Bien sûr.
Voilà, il y a la métropole.
Il y a tout l'espace colonial, c'est important, parce que justement, les empires allemands et austro-hongrois et russes sont des empires coloniaux sur le territoire européen, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des minorités nationales opprimés, c'est là un des grands enjeux de la controverse. Pour le dire simplement, vous avez des pays qui ont une réalité territoriale très identifiée aujourd'hui. Je pense à la République tchèque, qui était avant la Tchécoslovaquie depuis 1918, mais ce sont des... Par exemple, la population tchèque est intégrée à l'Empire austro-hongrois. Il y a eu des débats au 19e siècle pour savoir si les Tchèques allaient être une entité nationale, les Slaves reconnus dans l'Empire austro-hongrois. Ça n'a pas été le cas, comme on sait. Donc, Autrichiens et Hongrois sont les deux nationalités majoritaires qui dominent. Et donc, vous avez toute une série de peuples qui n'ont pas de droits nationaux reconnus. D'où l'ampleur de la controverse. Et pour prendre un autre exemple très connu de cette Middle Europa, mais qui dit bien la situation dans laquelle on est à ce moment-là, la Pologne n'existe pas. La Pologne est partagée entre l'Empire russe, l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. Donc, ça donne bien un panorama clair. Alors, évidemment, bon, il ne faut pas oublier que la France a l'Alsace-Moselle qui a été conquise après la guerre de 70 par l'Allemagne. Donc, ça fait partie des questions nationales aussi. Mais il est clair qu'on ne réfléchit pas de la même manière à ces questions à Paris, Berlin, Vienne, Moscou ou d'autres villes, bien sûr.
Et alors, ce qui est intéressant qu'on découvre dans votre livre, quand on n'est pas spécialiste de cette histoire-là, c'est que les sociodémocrates, donc germanophones de cette Mitteleuropa, avaient un lien un peu ambigu à l'Empire. C'est-à-dire, d'un côté, ils auraient préféré peut-être une forme républicaine pour avancer leurs idéaux, comme en France. Et d'un autre côté, l'Empire, c'est une façon aussi de dépasser l'État-nation, d'aller vers des entités de grande taille. Et vous rappelez que beaucoup des sociodémocrates qui tiennent le haut du pavé sur le plan doctrinal défendent ce dépassement des nations et cette idée d'avoir des grandes entités. Pour eux, c'est aussi un dépassement des provincialismes, des chauvinismes et compagnie.
Tout à fait, c'est l'un des grands dilemmes. Que faut-il faire des structures impériales ? Parce que nous, on connaît la suite de l'histoire, on connaît la révolution bolchevique, on connaît le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et l'idée selon laquelle, minorité nationale opprimée égale, quand on revendique pour eux, droits nationaux, États séparés contre la puissance impérialiste. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement en histoire de regarder ce qui a pu se passer avant. Il se trouve que pendant longtemps, beaucoup de sociodémocrates, même des théoriciens comme Marx et Engels, pensaient qu'il fallait privilégier les grands ensembles, comme d'une certaine manière, pour faire des analogies avec d'autres périodes, on s'est dit à un moment donné, il faut privilégier plutôt la construction européenne, parce que c'est un moyen de dépasser les antagonismes nationaux. Donc il y a une obsession dans le mouvement socialiste de dire... Tout ce qui va favoriser le développement de l'union des prolétaires est favorable.
Oui, je fais une parenthèse, mais par exemple, en 2005, au moment du grand référendum qui avait fait tellement polémique en France sur le traité constitutionnel européen, on avait un intellectuel issu de la gauche radicale, Tony Negri, qui disait « votez oui pour finir avec cette merde de l'État-nation ».
Exactement, c'est la version un peu caricaturale, mais ça existe et ça a toujours existé, effectivement. Sauf que, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Quand Marx et Engels sont très optimistes sur l'avenir du socialisme en 1848, les organisations à ce moment-là sont toutes petites. Donc quel est le premier article de la Ligue des communistes, de leur organisation, à Marx et Engels en 1848 ? Avant même les revendications sociales, ils disent une chose, le numéro 1, c'est « l'Allemagne doit être une république une et indivisible ». Sous-entendu, il faut faire une république allemande, grande, avec des germanophones, ils pensent que l'allemand est une langue véhiculaire pour tout le monde, ça ne veut pas dire qu'ils veulent écraser tous les peuples non plus à l'intérieur, mais quand même. Et donc, cette question-là est lancinante. Pourquoi, à tout prix, vouloir détruire les empires ? Et certains sociodémocrates vont même considérer que c'est mieux que de donner des droits à tout le monde, sinon les choses vont devenir ingérables. Et on touche à des espaces géographiques qui sont les espaces de la future Yougoslavie, parce que j'ai parlé de la Pologne tout à l'heure. Donc on voit bien... quelles sont les problématiques qu'il y a à ce moment-là. Et donc, à partir de là, c'est pour ça que ça justifie, à mon avis, de faire un ouvrage spécifique là-dessus. J'essaie d'exposer ce que les uns et les autres pensent à propos de tout ça. Je prends un dernier exemple. L'autodétermination des peuples. Les droits des nations à disposer d'elles-mêmes. Ça paraît un principe fondamental qu'il faut respecter, dit comme ça. Eh bien, pendant longtemps, dans toute une série de contextes, ils disent... Non, le droit des nations à disposer d'elles-mêmes ne va pas de soi, car sinon on va favoriser des micro-États, des micro-peuples. Et dans certaines zones géographiques des empires, les peuples sont enchevêtrés, donc vous allez déclencher des problématiques insolubles.
Pour poursuivre sur cette ambiguïté, vous avez cité 1848, donc c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples, avec beaucoup de révolutions qui finissent d'ailleurs par échouer. Et vous montrez bien comment cette mémoire de 1848 elle est très importante pour ces socialistes de l'époque, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, mais que derrière, justement, il y a cette idée de la Grande Allemagne qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas réussi à faire. Et peut-être là, je vous fais un peu développer là-dessus, c'est-à-dire que un des grands noms de l'époque est Kautsky, qui est un des principaux responsables qui font la doctrine des partis à l'époque. En fait, vous montrez que quand il parle de cette Grande Allemagne, en fait, ça inclut le fait d'assimiler des gens, quitte à ce que, culturellement, ils finissent par se dissoudre, en fait, par disparaître. En fait, ça nous paraît un peu choquant, alors que à l'époque, c'est associé à une position très progressiste, qui est internationaliste. C'est là où il y a vraiment un nuancier très fort que vous restituez.
Quoi. Oui, il y a beaucoup de théoriciens qui pensent cela pendant longtemps, y compris quand ils sont eux-mêmes issus de minorités. Kautsky, que vous avez cité, alors Kautsky, ça ne dit plus rien à personne, mais Kautsky était à peu près 100 fois plus connu que Jean Jaurès à l'époque. Je veux décevoir personne, mais Kautsky était vraiment le modèle pour tout le monde. Des gens comme Lénine et les bolcheviques ne regardaient quasiment que dans cette direction, pour situer le personnage. Kautsky est issu d'une famille... austro-tchèque, pourrait-on dire. Donc, il connaît très bien les problématiques liées aux minorités. Mais effectivement, le progrès à ce moment-là de l'histoire, l'avancée de l'histoire, c'est de considérer qu'il faut une grande langue véhiculaire pour tout le monde. Parce que comment les prolétaires peuvent mener une lutte s'il y a 15, 20 langues ou dialectes qui coexistent ? Donc, il y a effectivement derrière l'idée d'une grande Allemagne progressiste, fondée sur des questions sociales et qui pourrait être une des solutions. Évidemment, quand on expose tout ça, il faut faire très attention parce que quand on parle de la grande Allemagne, on va parler de l'Anschluss d'Hitler en 1938. Vous savez, l'Anschluss est une idée quasiment de gauche au départ en 1848. Les Autrichiens qui veulent s'allier à l'Allemagne, c'est pour faire une grande république progressiste, avec une visée certes assimilatrice pour beaucoup d'entre eux, pas tous. Il y a des projets alternatifs dont je parle dans le livre aussi, qui est de dire il va falloir tenir compte de tout cela. Ce qui est d'ailleurs le projet de l'Empire autrichien, hein, même des autres, des élites, de dire il faut tenir compte un minimum de tout cela. Donc effectivement, il ne faut pas faire de contresens sur cela. Et j'ajoute une chose, parce que je suis vraiment rentré dans cette question de la langue allemande, qui est un problème majeur quand on sait comme les tragédies du XXe siècle, mais tout de même, la Wilhelm Liebknecht, donc père du plus connu Karl Liebknecht, le spartakiste qui se fera assassiner en 1919, Wilhelm Liebknecht a écrit un dictionnaire de la langue allemande à la fin du XIXe, en essayant de voir d'où venait la langue allemande, en expliquant bien aux militants, regardez, la langue allemande est une construction issue aussi de mots étrangers, d'emprunts. Donc, légitimer la langue allemande comme une langue véhiculaire n'est pas qu'une opération nationaliste, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand ils essayent de développer cette vision progressiste pro-allemande, ils essayent de proposer des projets alternatifs de gauche au nationalisme, qui sont beaucoup plus puissants qu'eux politiquement. Dans le contexte.
Alors, venons-y, puisqu'il y a un personnage qui apparaît, qui tient des positions originales dans le livre. On va voir des portraits de lui s'afficher. C'est un certain Otto Bauer. Donc, on est toujours au tournant du XXe siècle. Et donc, lui, il défend un projet qui vise à garantir la coexistence de plusieurs nationalités. Et il a une position où il dit, voilà, on n'essentialise pas ces nationalités, elles vont évoluer, mais on ne les promet pas à la disparition non plus, comme dans les versions les plus assimilatrices. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, quel est le projet un peu de Otto Bauer et des personnes qui sont proches de ces positions?
Oui, alors Otto Bauer a un pédigré aussi tchéco-autrichien, il connaît les deux langues, il vient aussi d'un milieu juif assimilé, donc tout ces problématiques nationales, il les a vécues en son fort intérieur. Il évolue dans le contexte de l'Empire autrichien, où ces problématiques de nationalité, à partir de la toute fin du 19e, début 20e, pardonnez-moi l'expression, pourrissent la vie politique à ce moment-là à Vienne. C'est une grande obsession, que faire avec les minorités, notamment les minorités les plus revendicatives, au premier rang desquelles les Tchèques. À ce moment-là, Otto Bauer ne se satisfait pas des définitions habituelles. Parmi les définitions habituelles des socialistes, il y en a qui disent, dans les plus à gauche, les plus internationalistes, ne nous prenez pas la tête avec les questions de nationalité, le capitalisme fait l'histoire, c'est un peu la position de Negri un siècle plus tard, laissez le capitalisme faire le travail à notre place, laissez-nous tranquilles avec ça. Otto Bauer ne se satisfait pas de ça. Il ne se satisfait pas non plus. Il ne faut pas l'oublier, dans les partis sociaux-démocrates, il y a une aile nationaliste qui, elle, est pro-allemande, très forte. Je dis ça parce qu'Otto Bauer réagit aux deux. Et donc, il dit, moi, je vais essayer de vous proposer une voie médiane qui est de dire, on ne peut pas faire comme si donner des droits à tout le monde et créer des nouveaux États, ça allait résoudre le problème. Donc, il est contre l'idée qu'il faille faire sécession dans l'Empire autrichien. Et donc, il serait pour, en quelque sorte, démocratiser l'Empire autrichien, mais il faut bien évidemment donner un minimum de garantie aux populations, sinon la situation va continuer à être intenable. Et pour eux, il faut bien avoir en tête que quand même ce qui les intéresse normalement, c'est la lutte des classes, les luttes sociales. Ils ont ça en tête, ils disent on n'arrive même plus, et ça nous renvoie à des problématiques intéressantes, on n'arrive plus à parler des questions sociales parce qu'on est obsédé par les questions nationales. Et donc ils disent, moi je vais vous proposer un plan sur les questions nationales. Quel est ce plan? C'est un ouvrage de 400 pages, donc en une minute c'est pas évident, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros, il faut dissocier l'État de la nation. Vous savez, le fameux truc, le modèle de l'État-nation. Mais il dit, nous, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait un État qui garantisse aux minorités ou aux majorités, parce que selon les territoires, justement, c'est ça qui est compliqué, il faut en quelque sorte une sorte de grand répertoire national, une autonomie personnelle, où chaque individu puisse se reconnaître dans une identité reconnue nationalement, mais qui n'implique pas une territorialisation trop extrême, sinon on va tomber dans des situations de conflit permanent.
Des droits culturels plutôt que territoriaux.
Exactement, des droits culturels reconnus à l'échelle de l'Empire, dans lesquels chacun pourrait se reconnaître. Alors, après, il y a des propositions plus concrètes, de registres, etc.
Alors, vous avez évoqué le fait qu'il ferraille contre un courant de droite, on va dire, dans cet espace socialiste, qu'il nomme national révisionniste. Et ça, c'est ce que vous montrez dans l'ouvrage, c'est qu'au fond, il n'y a pas une sorte de chemin comme ça unique où on avait des sociodémocrates internationalistes avant 1914 et puis après ils sont tous intégrés aux États-nations. En fait, vous montrez que dès le début, enfin très tôt, en fait, très dès tôt. La constitution des partis, il y a des courants qui rejettent ce qu'ils appellent le cosmopolitisme et qui font de la question nationale une question centrale. Quoi.
Absolument. Ce que j'ai découvert, on est toujours content quand on a vu des archives, lu beaucoup de choses, d'être un peu pris à contre-pied de ce qu'on pensait. Effectivement, on écrit habituellement, et moi le premier avant, hein, que en fait il y a un moment internationaliste au début du mouvement ouvrier, et en fait ils sont de plus en plus intégrés, et donc ils sont de plus en plus nationalistes.
Je caricature. C'est pas une lecture totalement fausse non plus.
Bien sûr qu'il y a des tendances lourdes, mais il y a des moments d'aller et retour, de recul et d'avancée, si je puis dire. Ce qui est très sensible, pour prendre un autre exemple, parce que je vous réponds. Quand il y a la première révolution russe de 1905, donc très tardivement, les partis sont déjà beaucoup plus gros, là on redécouvre un moment internationaliste parce que la révolution est à l'extérieur et tout devient, entre guillemets, un peu plus à gauche sur les questions nationales. Donc voilà. Mais ce qui est clair, c'est que puisqu'on a eu, par exemple, les commémorations de la Commune, là, et donc on est revenu beaucoup aussi sur la première internationale, ces débats. Moi, je me suis plongé très attentivement dans les débats de la première internationale côté germanophone. Bah, il est clair que dans un certain nombre d'espaces géographiques, dès le début, les questions nationales, parfois, peuvent primer, même quand ce sont des petits groupes, sur les questions sociales. Donc il n'y a pas d'opposition entre les différentes périodes. Oui, il y a un courant de droite nationaliste qui vient de loin, mais qui vient des révolutions de 48. Certains ont toujours privilégié l'idée que, de toute manière, le socialisme était national. Et évidemment, je ne veux pas faire de raccourcis trop rapides, mais si ensuite la forme officielle du parti nazi plus tard sera national-socialisme, on sait qu'il veut jouer sur des symboles socialistes pour récupérer une partie du mouvement ouvrier organisé, mais il y a historiquement un courant socialiste national. Je vous rappelle que le théoricien conservateur Spengler a écrit des textes sur la République de Weimar où il se réclamait d'un socialisme national. Et sans faire la confusion et sans faire, comment dirais-je, comme lier tous ceux qui se réclament d'un socialisme national avant 14 avec cela.
Ils n'ont pas tous fini nazis.
Ils n'ont pas tous fini nazis, soyons bien clairs. Surtout que voilà, dans les conversions et reconversions politiques, c'est toujours compliqué. Mais il est certain qu'il y a un fort courant nationaliste contre lequel Bauer s'élève, un fort courant nationaliste qui a notamment des visées assimilatrices extrêmement violentes, pourrait-on dire, à l'égard des minorités, et qui a un projet impérialiste. C'est une des raisons, d'ailleurs, des critiques de Lénine à l'égard d'un certain nombre de dirigeants sociodémocrates. C'est ça aussi. Hein. C'est intéressant de voir que parmi ceux qui seront des acteurs majeurs du XXe siècle, hein, j'ai cité Lénine, je pense à Karl Renner, moins connu, mais ce sera le premier président de la première chancelier de la Première République autrichienne. D'autres personnalités comme Ebert, même, hein, qui est le premier directeur, le premier président, pardon, de la République de Weimar. Tous ces gens-là ont suivi de près ces débats-là, ces questions-là. Et le nationalisme très présent avant 1914, dans certains courants, il est toujours difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas de pourcentage dans les congrès, etc., de motions. Il est clair qu'il est assez présent, y compris dans une partie des militants structurés par ça. Et tout l'enjeu, pour un certain nombre de gens qui se situent plutôt au centre ou à la gauche de parti, est de dire, est-ce qu'on joue finalement sur la nation? Est-ce qu'on récupère une lecture progressiste de la nation allemande? Ou bien est-ce qu'on dit, ça ne nous regarde pas et on les combat frontalement?
Alors, j'y viens parce que vous avez cité Lénine. Une autre chose qui apparaît dans votre livre, un peu contre une idée reçue, on pourrait dire, c'est que justement les ailes gauches, donc on compte Lénine, Rosa Luxembourg, qui est souvent citée aujourd'hui, serait farouchement internationaliste, voire hostile au fait national. Vous montrez que c'est beaucoup plus hétérogène que ça, et du coup j'y associe une autre question. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle, en 14, l'écrasante majorité des sociodémocrates vont voter les crédits de guerre et vont accepter finalement la guerre, parce que les ailes gauches n'ont pas été capables de faire un front uni, de proposer quelque chose d'un peu clair?
Bon, on peut apporter toutes les nuances que l'on veut sur 1914. L'échec du projet internationaliste en 1914, vu que c'est la guerre, demeure. Effectivement, les ailes gauches n'ont pas réussi suffisamment à peser sur le devenir du parti. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ce que j'ai vu de près, c'est que ceux qui étaient les plus nationaux, nationalistes dans l'aile droite, ils sont assez bien structurés, assez cohérents.
Ils ont leur revue.
Ils ont leur revue, leur récit, parce qu'il n'y a pas que des enjeux idéologiques. Ils ont leur revue. Et bien, l'aile gauche cherche plutôt à peser sur la revue du sort, donc la revue Die Neue Zeit, qu'importe. Et ils n'ont pas leur propre organe, et ils n'ont pas effectivement, finalement, quand vous regardez de très près, leur propre ligne internationaliste, parce que, évidemment, ils sont internationalistes, ils sont plus internationalistes que les autres. Ils disent, non, non, les autres, c'est des affreux, ils sont en train de nous intégrer. Mais ils n'arrivent pas à peser véritablement sur les processus en cours, et parce qu'à mon avis, ils n'ont notamment pas de ligne très claire sur la nation. Parce que dans l'aile gauche, vous savez ceux qui disent, écoutez, il faut faire une lecture de gauche, on dirait aujourd'hui du récit national, sinon plus personne va nous écouter, et à ceux qui disent, non, surtout pas, sinon on va plonger c'est dans un truc c'est catastrophique. Ouais. Résultat, quel que soit, on peut dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, c'est toujours facile, mais en tout cas, en 1914, leur hétérogénéité et leur incapacité à peser sur ça, à penser ça, à mon avis, à peser lourd. C'est pas la seule chose, il y a des processus économiques, il y a les rivalités des empires coloniaux, donc je vais pas dire qu'ils auraient tout résolu, ouais. Mais une des raisons de leur échec, quand même très spectaculaire, par rapport aux grandes motions qui étaient votées dans les congrès internationaux, c'est qu'ils n'ont parce que souvent on dit, regardez ce qu'ils votaient dans les congrès internationaux, c'est quand même incroyable. Enfin, qui lisait les motions des congrès internationaux? Les militants structurés de base dans ces grands espaces-là, ce qui les intéresse, c'est l'espace local, régional, national. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut regarder ce qui pouvait peser. Mmh. Et là, effectivement, les choses ne se sont pas passées comme certains l'auraient souhaité.
Alors, dernière question avant de tirer le fil avec l'ère contemporaine. Vous ne cachez pas les ambiguïtés, c'est un mot faible, des socialistes de l'époque sur la colonisation, le paternalisme dont ils font preuve envers certains peuples. Alors, les Slaves, pour commencer, et puis les autres peuples, encore plus orientaux, entre guillemets, c'est le terme de l'époque, on parle d'Orient, et pourtant, là encore, ce que vous montrez, c'est des évolutions qui se font notamment sous l'impact d'événements comme la révolution russe de 1905. Quoi. C'est, petit à petit, on ouvre la focale. Quoi.
Oui, absolument, parce que c'est le réveil des peuples que l'on croyait, entre guillemets, endormis, quoi, enfin, selon une certaine lecture. Vous savez, il y a un processus à partir de 1905 qui ressemble à la vie de Karl Marx, qui lui meurt en 1883. Pendant longtemps, ils ont pensé que la révolution, le changement social, appelez-le comme vous voulez, c'était Paris, Londres, Berlin, Vienne, éventuellement Rome et Espagne, si suivaient, et Madrid, si suivaient. Enfin, je caricature à peine. Sauf que ça n'a pas marché, d'abord, donc c'est un bon moyen de se remettre en question quand il ne se passe pas ce que vous souhaitiez. Et ensuite, à la fin de sa vie, Marx s'intéresse aux espaces extra-européens. Il apprend même le russe en autodidacte, etc. Je pense qu'il fait ça parce que c'est du dépit aussi, au départ. Et après, il se rend compte qu'il y a des spécificités à l'étranger, notamment dans ce qu'on appelle l'Orient, c'est-à-dire les espaces en dehors de l'Europe occidentale.
Ce qui comprend aussi l'Asie.
Oui, c'est un Orient très large. Et j'emploie le terme volontairement parce que c'est comme ça qu'eux perçoivent les choses. C'est la question d'Orient, en plus, comme on dit parfois à cette époque-là aussi. Et après 1905, effectivement, eh ben, ce qui change tout, c'est qu'il y a des évolutions majeures, parce qu'il y a des révoltes à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et après, c'est un cycle révolutionnaire
aussi,
exactement méconnu, que moi-même je connaissais relativement peu avant d'en approfondir, et ils sont attentifs. Il y a la révolution constitutionnelle en Iran en 1906, et ça va jusqu'à la révolution jeune turque de 1908, la première république chinoise, même si c'est pas très brillant au départ en 1911, mais complètement enthousiaste, rendez-vous compte, une république proclamée à Pékin, à l'autre bout du monde, enfin ça va au-delà de leurs espoirs, même si après, ils sont un peu douchés par les réalités concrètes. Donc, il y a une véritable prise en compte de tout ça, et parallèlement, oui, une critique de l'empire colonial de plus en plus forte, quelqu'un comme Jaurès, là je le prends parce que c'est paradigme, c'est vraiment un paradigme, Jaurès qui a commencé sa carrière politique en étant inconditionnellement du côté de Jules Ferry, certes pour les questions scolaires et publiques, l'école gratuite, l'école obligatoire, mais qui était complètement colonialiste comme lui. C'est marrant parce que Clémenceau, à l'époque, était par contre remonté contre Jules Ferry, et c'est son fameux discours sur les races supérieures, races inférieures qui conteste brillamment d'ailleurs. Et Jean Jaurès, lui, au début du XXe siècle, parce qu'il y a notamment la question marocaine qui empoisonne les relations entre la France et l'Allemagne, devient de plus en plus sensible au sort des peuples coloniaux non européens. Et ça croise effectivement les problématiques sur le continent européen. Là où il y a des minorités opprimées, eh bien, on pense davantage les choses. C'est, à mon avis, ce qui explique aussi le grand succès international des bolcheviques ultérieurement, au-delà du fait qu'ils aient pris le pouvoir, ce qui aide pour avoir quelques succès, et d'être à la tête d'une révolution. Mais on voit bien, parce que pour avoir relu ces textes avant 1914, ceux qui avaient compris, comme on dira ensuite, les potentialités révolutionnaires de l'Orient, eh bien, ont été très loin. Mais on peut dire que l'internationalisme vit dans les années 1848, 1860, 1870, mais franchement, les gens qui vous font des tableaux un peu idylliques de la première internationale, de l'internationalisme ouvrier originel. Franchement, si vous parlez des peuples coloniaux, de la question orientale, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, les sociaux-démocrates, et pas forcément toujours les plus à gauche, parce que ni Jean Jaurès ni Otto Bauer sont dans les plus à gauche, hein, vous avez cité l'aile gauche, mais Jean Jaurès est plutôt au centre, Otto Bauer au centre. Otto Bauer publie des textes sur la révolution orientale en 1912, spectaculaire de lucidité sur ce qui va se passer.
Enfin, on le disait en introduction, quoi. Ces problématiques des nations, des minorités, elles existent encore. Alors vous faites un travail d'historien très sérieux, vous restez sur votre objet pendant tout le livre, mais bon, évidemment, on est tenté un peu de vous demander un peu en quoi ça nous aide aussi à penser le présent. Et puis en fait, je dis ça parce que vous vous intéressez aussi aux gauches contemporaines. Aujourd'hui, sur le terrain de la nation, bon, on pourrait résumer les choses en disant que les gauches font face à deux défis. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les extrêmes droites sont dans un vocabulaire savant, on dit parfois les nativistes, hein, donc l'équivalent du Rassemblement national français, qui font leur propre offensive. Et puis après, il y a des difficultés plus stratégiques liées à l'Union européenne, on en parlait, jusqu'à quel point il faut désobéir, aller contre l'intégration, y renoncer, essayer de la modifier, bref. Est-ce que les pensées que vous avez exhumées, est-ce que en fait elles vous ont fait écho et elles vous ont amené sur des pistes qui pourraient être intéressantes pour affronter ces questions aujourd'hui, ou est-ce que au contraire l'historien au bout d'un moment dit c'était un autre
monde a changé quoi.
C'est un autre monde mais tellement radicalement différent qu'en fait on n'en apprend rien pour aujourd'hui, politiquement pour aujourd'hui.
Alors évidemment, les réalités de l'Europe centrale et orientale sont très spécifiques, situées historiquement, et il faut les comprendre comme telles quand on étudie historiquement la chose. Ça, c'est la première étape. En revanche, l'avantage de ces socialistes marxistes de cette époque-là, c'est qu'ils ont une obsession de vouloir tout théoriser, c'est une obsession très allemande, si je puis me permettre, donc de donner un peu des grandes formules générales avec des concepts.
Généralité, quoi.
Exactement. Donc ça facilite le fait que ces textes, sans qu'on puisse les plaquer schématiquement sur d'autres réalités, quand même, ont une certaine pérennité, plus que d'autres. Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans ce qu'ils ont essayé de faire, un certain nombre de socialistes à l'époque, ils ont essayé de faire une sorte de récit des luttes sociales. C'est la première fois qu'on fait des histoires populaires, hein. Je le dis, hein, Noiriel, Zancarini, Fournel, etc., font de l'histoire populaire de la France, mais en partant de la France, pourquoi pas, c'est très bien. Mais en recherchant historiquement les premiers qui ont fait ça, de dire, écoutez, il faut qu'on écrive une histoire, parce que nos militants, ils vont de plus en plus dans les structures scolaires, hein, à cette époque-là, ils apprennent l'histoire, en gros, nationaliste à l'école, et donc nous devons contre-attaquer et fournir un récit alternatif.
Une contre-histoire.
Une contre-histoire, exactement. Et pour forger une contre-histoire, et là où ça nous renvoie à des controverses aujourd'hui, certains disent, bon, il y a une histoire officielle enseignée qu'il faut critiquer, il y a les récits nationalistes des droites et des extrêmes droites, donc il faut déconstruire les récits nationaux. Bon, qu'il faille déconstruire un certain nombre de choses, je suis bien d'accord. Le problème, et ce que ces exemples historiques montrent bien, c'est que si vous voulez un ancrage dans les classes populaires, et je mobilise Gramsci pour ça, et notamment le national populaire, eh bien, vous ne pouvez pas faire abstraction des constructions existantes, donc la nation est une construction politique, mais elle est portée aussi par des récits qui sont diffusés dans la population. Et les récits, c'est structuré, il y a une chronologie, il y a un début, une fin, il y a un peu des images héroïques, il y a un peu des mythes. Ce n'est pas idéal, certes, pour développer l'esprit critique, mais ce n'est pas non plus inutile pour créer une cohésion et mobiliser les masses. Et ça, je crois que c'est un enseignement de cette période-là, de dire, oui, bien sûr qu'il faut faire très attention à ce que l'on fait lorsqu'on utilise les symboles nationaux, mais ce que les plus intelligents, à mon avis, de l'époque ont essayé de faire, c'est de dire, par exemple, on prend des figures comme Schiller, c'est un peu le Victor Hugo allemand, si vous voulez, et on dit, alors évidemment, Schiller, on peut dire, il est plus ambivalent que Victor Hugo, mais l'histoire allemande est plus compliquée, parce qu'il n'y a pas la République, parce qu'il n'y a pas la Révolution française, il fallait bien qu'ils se fassent avec ce qu'ils ont. Et c'est de dire, nous allons essayer de nous approprier, par exemple, ces grandes commémorations qui ont l'honneur de Schiller en Allemagne, en faisant nos propres commémorations, en donnant un contenu de gauche et progressiste à tout cela. Lorsqu'il y a l'anniversaire, nous sommes à la veille du grand anniversaire du bicentenaire de la mort de Napoléon. Napoléon, ça les obsède. Parce que Napoléon, c'est celui qui a balayé la féodalité en Allemagne. Et donc, quand il y a le centenaire de la bataille de Leipzig, donc en 1913, c'est quand les coalisés chassent Napoléon de leur territoire, ils sont très embêtés. Ils disent, mais est-ce qu'on va juste dire « vive la nation allemande » Parce que si vous faites les commémorations « vive la nation allemande », vous êtes tous les nationalistes. Donc, il faut bien trouver une voie médiane. Donc, ils sont aussi à dire « oui, bien sûr, d'une certaine manière, oui, nous sommes allemands et nous défendons la nation allemande. » Mais, d'un autre côté, Napoléon a contribué à chasser la féodalité, à faire avancer l'histoire chez nous. Donc, ils essayent de trouver ça en permanence. Donc, Qu'est-ce que l'on peut faire avec tout ça aujourd'hui? Moi, je suis vraiment très réservé, vous l'aurez compris, sur le fait que tout récit national en soi, je ne dis pas que tout le monde dit ça, mais il y en a qui le disent, hein, serait réactionnaire ou porteur nécessairement de nationalisme. Je pense que si on va trop loin dans la critique de tout cela, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer les récits officiels, si on se déconnecte complètement même des formes classiques, en partie de récits, etc., on passe complètement à côté de ce qui peut créer du collectif et sensibiliser les milieux populaires à une conception alternative de l'histoire. Je suis conscient, ça se discute, mais c'est justement, c'est la première fois qu'ils ont été confrontés au problème. Ouais. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont fait. Je crois que c'est pas inutile d'aller puiser dans les exemples qu'ils proposent à ce moment-là, en faisant les changements nécessaires.
Bon, on comprend donc du coup votre point de vue. Une toute petite dernière question brièvement. Vous avez cité cet adjectif de national populaire qui est utilisé par le théoricien italien Gramsci. Vous dites ça dans le livre, ça que j'ai retenu, c'est que ces socialistes-là essayent en permanence de différencier donc le folk en allemand, hein, qui serait un peuple plutôt inclusif, plébéien, de quelque chose de völkisch, hein, qui est un peuple plutôt exclusif à fondement ethnique. Donc il y a cette distinction-là. Est-ce que ce côté national populaire, est-ce que c'est pas ce qu'ont essayé de faire, ce qu'on appelle aujourd'hui des populistes de gauche, même si le terme est controversé, comme Podemos en Espagne, comme la France insoumise en France? Est-ce que vous retrouvez un peu cette démarche?
Partiellement, oui. Vous avez même l'adjectif populiste existe et si on faisait des traductions, on peut le retrouver. Oui, il y a un peu cette dimension-là en se disant on va se reprendre le cadre de la nation pour mobiliser le peuple parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment d'autres en réalité. Il y a un peu cet aspect-là. Sauf que la grande différence quand même entre Gramsci, les sociodémocrates et tous les gens dont on a pu parler, au-delà de leurs divergences stratégiques, on aura compris qu'elles étaient nombreuses, c'est qu'il lie toujours ça à la question sociale et à la question de la lutte des classes. Mmh. Ce qui, comme vous savez, n'est pas le cas dans beaucoup de courants populistes où c'est eux et nous. Alors, il y a des liens, mais la question sociale est quand même subordonnée à la défense de la nation sur bien des points, et parfois ça devient même l'obsession exclusive. Alors que quand ils font leur histoire populaire nationale, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent toujours en avant l'histoire du rôle du peuple, des luttes sociales, en lien avec la nation. Alors que chez certains courants populistes, pas forcément tous, mais certains ont tendance à glisser vers quelque chose qui soit une exaltation de la nation, qui parfois ne se différencie plus des autres lectures nationalistes. Donc j'ai bien conscience que la limite et les frontières sont très compliquées, mais tout de même, là, je pense qu'il y a l'exaltation de la nation en pur et simple, en disant, bah oui, si vous comprenez, si vous laissez passer la nation, plus personne va nous écouter, et d'un autre côté, la réaction qui consiste à dire, on va tout déconstruire la nation sur le récit national, sinon c'est horrible, on est dans les fourrières de Marine Le Pen, je pense qu'il y a une voie intermédiaire entre les deux, et que ces exemples historiques peuvent nous permettre de nourrir cela. Bon, modestement, hein, ce sont des exemples historiques, bien sûr, mais tout de même. Et Gramsci, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est de la période plutôt d'après, hein, entre deux guerres, mais il a évolué intellectuellement dans une Italie complètement éclatée. On connaît les questions nationales en Italie jusqu'à nos jours. Donc il n'est pas très éloigné de ça, parce qu'il se dit, le national réalisé avec un contenu de classe, un contenu populaire, ce serait déjà formidable. Il y a quand même ça chez Gramsci, de dire, si on arrive à progresser là-dessus, on va damer le pion aux nationalistes et en même temps garder le peuple avec nous. Donc c'est quand même ça qu'il y a derrière, parce que les cahiers de prison sont assez elliptiques, hein, quand même, pour ceux qui les lisent. Donc il faut essayer de décrypter.
Voilà, la nation comme terrain incontournable et glissant, c'est ça que je retiens.
Oui, absolument, absolument, tout à fait. Mais ne pas en tenir compte ou vouloir espérer que les processus supranationaux, internationaux, de mondialisation finissent par nous débarrasser du problème. Écoutez, je crois qu'au bout de deux siècles, il faut considérer que on ne peut pas en vouloir d'avoir cru ça et c'est formé. Là, je pense qu'il faut arrêter, quoi, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir.
Bon, merci de nous avoir accordé cet entretien, Jean-Dumas Ducamp. Je rappelle votre ouvrage, Quand la gauche pensait la nation, c'est aux éditions Fayard. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur Mediapart.fr pour tous les autres entretiens du studio.